Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ce volume réunit trois dialogues majeurs de Platon consacrés au procès, à la détention et à la mort de Socrate. L'apologie de Socrate présente la défense du philosophe devant le tribunal athénien, face aux accusations de corruption de la jeunesse et de refus des cultes civiques. Le Criton se situe en prison, lorsque Socrate refuse une évasion pourtant possible, afin de réfléchir au rapport entre justice, devoir civique et loi de la cité. Le Phédon rapporte enfin les dernières discussions de Socrate avec ses proches avant son exécution, centrées sur le destin de l'âme et sur le sens philosophique de la mort. Ces textes ne forment pas une biographie au sens moderne, mais une construction philosophique qui associe une figure historique à des problèmes durables. Le recueil a pour objet de montrer ce que signifie examiner sa vie, soumettre les opinions à la raison et maintenir une exigence de justice jusque dans une situation extrême. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le procès comme mise à l'épreuve de la mission philosophique. Dans l'Apologie de Socrate, Platon ne propose pas un plaidoyer juridique ordinaire. La défense de Socrate devient une clarification de sa pratique intellectuelle. Socrate explique que son activité consiste à interroger ceux qui se croient savants afin de vérifier la solidité de leurs convictions. Cette démarche produit une forme de savoir négatif reconnaître ses limites, vaut mieux que prétendre posséder une connaissance absente. La réputation de sagesse attribuée à Socrate découle précisément de cette lucidité. Le dialogue éclaire aussi le conflit entre la philosophie et la cité. En mettant en difficulté des hommes influents, Socrate suscite l'hostilité sans pour autant accepter de renoncer à son examen critique. Il refuse de solliciter la pitié du tribunal ou de modifier son discours pour sauver sa vie, car une défense fondée sur la flatterie contredirait son enseignement. Platon associe ainsi la recherche de la vérité à une responsabilité morale. La philosophie ne se réduit ni à une accumulation de doctrines, ni à une habileté rhétorique, elle exige que chacun rende compte de ce qu'il affirme savoir et de la manière dont il conduit son existence. Le procès révèle le coût politique de cette exigence. Deuxièmement, l'ironie socratique et la distinction entre apparence de savoir et savoir réel. Le recueil permet de comprendre la fonction de l'ironie socratique, souvent réduite à tort à une simple moquerie. Elle désigne surtout une méthode de déstabilisation des certitudes insuffisamment examinées. Socrate se présente fréquemment comme moins savant que ses interlocuteurs, puis les conduit à expliciter leurs définitions et à mesurer les contradictions de leurs réponses. Cette posture ne vise pas seulement à vaincre un adversaire dans une discussion. Elle met au jour la différence entre le prestige social, la compétence technique et la connaissance du bien, de la justice ou de la vertu. Une personne peut être reconnue dans la cité, exercer une fonction importante ou maîtriser un art, tout en ignorant ce qui justifie réellement ses jugements moraux. Dans l'Apologie, cette distinction explique pourquoi Socrate peut paraître arrogant alors que son propos insiste sur son ignorance. Il ne nie pas toute connaissance humaine. Il refuse plutôt de confondre une compétence limitée avec une sagesse globale. La portée du procédé est durable, une croyance largement partagée ne devient pas vraie parce qu'elle est populaire. Et une affirmation persuasive ne devient pas fondée sans examen rationnel. Platon fait ainsi de la conversation critique un exercice éthique autant qu'intellectuel. Troisièmement, le refus de fuir dans le Criton et la question du devoir envers les lois. Le Criton examine une décision concrète Socrate, doit-il accepter de fuir la prison afin d'échapper à une condamnation qu'il estime injuste? Son ami Criton invoque la sécurité, la réputation des proches et les devoirs familiaux. Socrate déplace pourtant le débat. La première question n'est pas de savoir ce qui est avantageux ou ce que pensera la majorité, mais s'il serait juste de s'évader. Il soutient qu'il ne faut jamais répondre à une injustice par une autre injustice. Le dialogue donne alors voix aux lois de la cité, qui rappellent les liens entre le citoyen et le cadre politique dont il a bénéficié. Socrate a vécu à Athènes, y a élevé ses enfants et a pu participer à ses institutions. Partir clandestinement au moment du jugement reviendrait, selon ce raisonnement, à détruire l'autorité des décisions publiques. Cette position ne signifie pas que tout jugement légal est moralement juste. La condamnation demeure présentée comme une injustice. Le point décisif est que la correction d'une injustice ne peut reposer sur le rejet arbitraire des règles communes. Le Criton offre donc une réflexion ancienne. Mais encore discutée, sur le consentement politique, les limites de l'obéissance et la cohérence entre principes proclamés et actes accomplis. Quatrièmement, le Phédon philosophé comme travail de détachement à la veille de la mort dans le Phédon. La mort prochaine de Socrate donne une intensité particulière à la réflexion sur le corps, l'âme et la connaissance. Socrate soutient que le philosophe doit apprendre à se détacher des séductions et des contraintes corporelles qui troublent le jugement. Les sensations sont nécessaires à la vie ordinaire, mais elles ne fournissent pas à elles seules une connaissance stable des réalités telles que le juste, le beau ou l'égal. La philosophie devient donc un exercice de purification intellectuelle et morale. Elle demande de privilégier la recherche de ce qui est vrai plutôt que les biens passagers, les passions ou la peur de mourir. Cette conception ne doit pas être comprise comme une simple exaltation de la mort. Le dialogue ne valorise pas le suicide, puisque la vie humaine reste placée sous une responsabilité qui dépasse le désir individuel. La mort est plutôt envisagée comme une épreuve révélatrice de la qualité de vie philosophique. Celui qui a cherché à ordonner ses désirs et à examiner ses croyances peut la regarder avec une sérénité relative. Platon relie ainsi la métaphysique à une discipline pratique, la thèse de l'immortalité de l'âme importe parce qu'elle transforme la manière de hiérarchiser les biens et de répondre aux événements irréversibles. En dernier lieu, immortalité de l'âme et monde intelligible, une argumentation ouverte à la discussion. Le Phédon développe plusieurs raisonnements en faveur de la survie de l'âme après la mort. Platon y associe notamment le passage des contraires, la réminiscence et la parenté de l'âme avec les réalités intelligibles. L'argument de la réminiscence part de la capacité humaine à reconnaître des formes de perfection, comme l'égalité en soi, que les objets sensibles ne réalisent jamais complètement. Cette capacité suggère que l'âme a un rapport avec des vérités qui ne proviennent pas seulement de l'expérience présente. Le dialogue distingue alors ce qui change, se décompose et reste accessible au sens de ce qui demeure stable et se laisse saisir par la pensée. L'âme est rapprochée du second ordre, tandis que le corps appartient davantage au premier. Toutefois, Platon ne présente pas ses thèses comme des slogans à accepter sans réserve. Des objections sont formulées par des interlocuteurs de Socrate, notamment sur le risque de comparer l'âme à une harmonie qui disparaîtrait avec son instrument, ou sur la possibilité qu'elle se fatigue après plusieurs existences. La force philosophique du texte tient aussi à cette exposition des difficultés. Le lecteur rencontre moins une preuve définitive qu'une enquête structurée sur les conditions de la connaissance, de l'identité personnelle et de l'espérance face à la mort. En conclusion, Apologie de Socrate, Criton, Phédon convient au lecteur qui souhaite aborder Platon par des textes relativement concentrés, mais essentiels pour comprendre la figure de Socrate et plusieurs questions fondatrices de la philosophie occidentale. Il peut intéresser les étudiants, les lecteurs de philosophie morale et politique, ainsi que toute personne disposée à suivre des raisonnements exigeants sur la justice, la vérité et la mort. Une lecture lente est préférable, car les dialogues reposent sur des distinctions précises et sur des objections qui modifient progressivement le sens des thèses défendues. Le bénéfice principal ne réside pas dans la réception de réponses prêtes à l'emploi. Le volume apprend plutôt à distinguer opinion majoritaire et jugement justifié, intérêt immédiat et action juste, expérience sensible et exigence de vérité. Il se démarque de nombreux ouvrages introductifs par sa forme dramatique et argumentative. Les idées ne sont pas exposées comme un système abstrait, mais sont mises à l'épreuve dans les circonstances extrêmes du procès et de la mort de Socrate. La proximité des trois dialogues donne en outre une cohérence rare à la lecture. Elle fait apparaître un même idéal de vie sous trois angles: parler avec franchise devant la cité, respecter la justice dans l'adversité et examiner la destination de l'âme. Cette unité rend le recueil particulièrement fécond pour une première lecture réfléchie de Platon. Si vous souhaitez soutenir Platon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.